Le paddock RMC, Nicolas Paolorsi.
Salut les amis, c'est un plaisir de vous retrouver dans le warm-up du paddock RMC. Pourquoi c'est un plaisir? Alors c'est toujours un plaisir, mais c'est encore plus un plaisir quand c'est la fin de saison. 21e manche du championnat du monde au Brésil, à Interlagos. C'est une course mythique. En plus, on reste sur un Grand Prix du Brésil totalement dingue en 2024 avec le double podium de nos pilotes français. Et on s'attend vraiment à ce que ce Grand Prix du Brésil soit un moment charnière pour ce championnat du monde des pilotes. Bien évidemment, on va se plonger dans ce Grand Prix, les indiscrétions météo, les dernières déclats un petit peu, ça bouge beaucoup. On attend toujours de savoir si Isaac Hadjar sera un pilote Red Bull la saison prochaine, on va en parler également. Donc voilà, les dernières actus de la Formule 1, c'est dans ce warm-up du Grand Prix du Brésil. Les ingénieurs sont toujours chauds, ils sont encore plus chauds qu'en début de saison, à chaque fois que se rapproche le coup près final, comme on dit. Louis Gerbier et Sarah Fabet, salut les gars.
Salut Nico, salut tout le monde.
Hello Nico, salut tout le monde.
Est-ce que c'est pas le Grand Prix pour lequel on est peut-être le plus excité depuis le début de saison? Franchement, moi je sais pas pourquoi ce Grand Prix du Brésil, là j'ai des petits papillons dans le ventre.
Sur les trois qui restent, franchement, c'est celui qui est le plus intéressant sur le papier, faut dire ce qui est. Et puis parce qu'on sait aussi qu'il se passe souvent des choses là-bas, donc ça, t'as envie de le voir quoi qu'il en soit.
Ouais, on a envie qu'il se passe plein de choses. Et souvent, quand on est comme ça, très très impatient, ça accouche d'une souris. faut quand même le dire. Ouais. Je vous rappelle que le paddock est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, que c'est super important pour nous que vous commentiez nos publications sur la page Instagram RMC Formule 1. Vous nous envoyez des petits messages, vous réagissez aux différents formats. On est là pour vous lire, pour vous relayer. Et n'oubliez pas les petites notes, les 5 étoiles sur les plateformes de téléchargement. C'est toujours super important pour nous, pour continuer à vous proposer du contenu F1. Les gars, c'est parti pour ce warm-up du Grand Prix du Brésil. Bon, je refais pas le point sur la situation comptable, hein, mais on sait que Lando Norris, du coup, a repris les commandes du championnat du monde pilote. Un petit point d'avance sur Oscar Piastri, ça va être vraiment une course charnière dans ce duel 100% McLaren. Et puis, les gars, ce qui nous intéresse aussi à Interlagos, c'est que c'est une des courses préférées de Max Verstappen et que l'ami Max, il est toujours là en chasse. Et c'est probablement sa dernière chance, lui, d'aller chercher quelque chose, ou en tout cas de se laisser le droit de rêver à ce cinquième titre de champion du monde. Donc on imagine qu'on va avoir un Verstappen jouant à Interlagos, ça peut totalement dynamiter la course, ça.
Oui, surtout quand on connaît le premier virage, parce qu'on sait que lui et les premiers virages, c'est une histoire, et alors le premier virage du Brésil, c'en est une à lui tout seul aussi, donc les deux cumulés. Moi j'ai très hâte de voir ça. On rappelle pour ceux qui ne l'ont pas forcément en tête, mais le virage il arrive assez rapidement, un peu en descente, en dévers, et ensuite un enchaînement, les S de Senna, tout en appui où tu peux vaguement te croiser parce que comme tu es en appui, c'est assez compliqué. Donc c'est vraiment un début de Grand Prix parfait pour un départ chaos. Et c'est le terrain de jeu favori de Max Verstappen. Donc s'il est bien placé, il n'y a pas de raison qu'il fasse un petit exploit et qu'il soit encore en tête plutôt au troisième, du coup, dans la première ligne droite après les S de Senna. Ouais. Moi, je m'attends bien à ça, en tout cas.
C'est clair. Je vous donne le programme, les gars, avant de reprendre ce warm-up. 15h30 demain, la première séance d'essai libre. C'est un week-end sprint, hein. C'est important. Ça veut dire qu'il y a plus de points à distribuer que sur un week-end classique, bien évidemment. Les qualifs de la sprint race, ce sera demain, vendredi, à 19h30. Course sprint, samedi, à 15h française. Qualification, samedi, à 19h. Et la course, du coup, le Grand Prix, à 18h, dimanche, bien évidemment, à vivre sur RMC avec Jean-Luc Roy. Séraphin, on reste bien sûr avec l'idée de ce Grand Prix du Brésil totalement fantastique de la saison dernière, sous des trombes d'eau, avec un Verstappen qui sort peut-être la plus belle course de sa carrière en Formule 1, nos pilotes alpines qui arrivent à sauver la saison de leur écurie et leur saison sur cette course-là. Ça sera peut-être pas la même chose au niveau météo ce week-end, c'est pas franchement ce qui est annoncé, mais on sait que le Brésil c'est toujours très particulier comme Grand Prix au niveau des conditions.
Comment ne pas l'oublier, tu l'as dit Nico, le Grand Prix l'année dernière qui était incroyable, d'ailleurs Verstappen on se rappelle qu'il part 17e, qui remonte, c'était exceptionnel sous la pluie, sous des conditions chaotiques, beaucoup de pilotes d'ailleurs se sont fait se sont fait piéger et ce podium inespéré d'Alpine, deuxième et troisième avec effectivement les deux Français à l'époque, donc oui. Et plein d'autres, ça a toujours été beaucoup de vainqueurs assez surprenants. On se souvient aussi assez récemment, par exemple, de 2023, la qualification de Kevin Magnussen, quand même, qui était aussi impressionnante, avec des conditions très changeantes, avec du vent. D'ailleurs, c'est ce qu'ils annoncent. Moi, j'ai vu samedi pas mal de vent attendu.
Ouais, je suis en train de regarder. Samedi, ça a l'air de... Il peut même pleuvoir. Oui. On parle de pluie aussi. Ça sent le temps, comme tu dis,
c'est mitigé, Raffin,
mitigé, qui peut... Tu vois, le fameux temps classique en F1 où on va regretter que la pluie soit tombée une heure trop tôt, une heure trop tard par rapport à la qualif.
Et c'est important parce que donc, la tendance et la météo pour ce Grand Prix est plutôt moyenne en termes de conditions entre nuages, vent, risque de pluie. Peut-être vendredi, plutôt samedi et dimanche, ça semble s'éloigner. Mais ce qui veut dire aussi, c'est que étant donné qu'on n'a qu'une séance d'essai libre le vendredi, eh ben, si on règle sa voiture le vendredi et que le soir, il se met à pleuvoir, ou aussi le lendemain, même si on casse la règle du parc fermé, ça veut dire aussi pour les pilotes et pour les teams devoir trouver rapidement, voilà, régler sa voiture, trouver son aise sur ce circuit. On a quand même 5 rookies encore donc cette année. On sait que la Formule 2 non plus ne roule pas sur ce circuit, donc c'est important aussi de trouver ses points et son aise dessus. Donc il va falloir être rapidement dans le rythme, et on sait que voilà, des pilotes... évidemment, très expérimentés, ils vont pouvoir beaucoup plus s'habituer. Lando Norris aussi, qui était pole position l'année dernière aussi, qui semble en tout cas, parmi les deux pilotes McLaren, être évidemment plus à l'aise. Mais oui, des batailles, on se souvient aussi de 2021, la remontée aussi de Lewis Hamilton à l'époque avec sa Mercedes, qui avait fait une course incroyable, à la fois la sprint et aussi la course longue, qui avait été pénalisée d'ailleurs pour un changement de moteur, et donc qui avait su remonter, et c'était aussi une course incroyable. Et puis à plus moyenne temporalité, 2008 évidemment, on en parle souvent.
Bien sûr, en parlant de la course de 2008, cette course de folie avec Hamilton qui va chipper le titre à Massa, d'ailleurs c'est encore dans l'actu actuellement, ça a pas un juste coupe, mais vous avez le replay là, des commentaires de Julien Febvreau qui à l'époque bossait pour RMC, avec Jean-Luc Roy et Patrick Tambay, qu'on vous a isolé, qu'on vous a sorti sur la page Instagram RMC Formule 1.
Ouais, si allez le voir sur la page, ça vaut vraiment le coup, l'émotion qu'ils ont quand ils vivent ce moment, et ça fout des frissons, franchement.
Ah ouais, franchement.
Avec Jean-Luc Roy,
bon, on n'est pas étonné, connaissant l'équipe qu'il y avait derrière le micro, que ce soit. Mais ouais, vraiment, ils transmettent un truc et ça se regarde comme si c'était la première fois que tu le voyais.
C'est l'une des courses les plus folles, l'un des titres les plus fous.
Ah oui, ils ont eu les aléas de la course avec eux, mais clairement, ils ont su le faire vivre. Moi, je ne l'avais pas écouté en direct, mais. C'est là que tu vois aussi.
T'étais jeune, toi aussi, 2008.
Ouais. Mais c'est là que tu vois le talent que. Enfin, la radio peut transmettre des émotions. Moi, je me rappelle la quasi-descente du PSG en Ligue 2. J'avais vécu le dernier match à la radio, comme ça, pareil. Et à la radio, tu vis le truc complètement différemment, mais c'est puissant aussi. Tu t'imagines plein de trucs. Enfin, c'est top.
Clairement, mais on est tous team radio à mettre les images de la télé et à mettre les commentaires de la radio. Si tu te cales bien dessus, c'est quand même exceptionnel. Serafin, j'allais vous dire, les gars, oui, Max Verstappen, qui a gagné en 2024, qui a gagné en 2023, qui a gagné en 2019, qui a gagné trois fois déjà sur ce circuit. Après sa démonstration de l'an dernier, il a prouvé qu'il avait mis une masterclass à tout le monde. Moi, j'ai la sensation qu'il aborde ce week-end avec un réel avantage psychologique. Peut-être beaucoup plus, les gars, que sur d'autres tracés. Non ?
Il sait que sur ce type de circuit, il a la faculté de pouvoir très rapidement mettre bout à bout son talent du pilotage avec la difficulté qui est le circuit. On pense quand même au deuxième secteur qui est très sinueux, avec des virages qui s'enchaînent à basse vitesse, où il faut vraiment tenir la voiture, il faut avoir une bonne sortie dans les virages pour aller jusqu'à cette grande ligne droite. Et c'est vrai que parmi, on va en parler, mais les trois pilotes qui sont actuellement en tête du championnat pour espérer remporter le titre, c'est vrai que c'est celui, évidemment, tu l'as dit, trois victoires sur ce tracé des précédentes années où il a montré des courses particulièrement solides sur ce tracé. Donc oui, ça semble effectivement... être plutôt le pilote favori. Et en second, on sait que, au vu de la dynamique aussi, je pense que Lando Norris avec sa McLaren peut aussi quand même se montrer un sérieux concurrent, en tout cas. Il a prouvé d'ailleurs le week-end précédent, lors du dernier week-end, du dernier Grand Prix, en maîtrisant toute la course et la qualification, tous les tours menés. Donc il a dominé évidemment Verstappen, qui était sur une bonne lancée jusqu'avant. Mais en tout cas, oui, Verstappen, il y a peu de doute que, même si sa monoplace peut montrer peut-être quelques faiblesses, il faut voir aussi comment ça se comporte. Hein. On sait que c'est un peu difficile de juger entre la McLaren et la Red Bull maintenant, elles sont très proches. Mais en tout cas, faut voir, et la tenue des gommes aussi qui est importante,
bien sûr,
et qui reste quand même, je pense, même si c'est assez faible, toujours pour un avantage de McLaren.
Les gars, je voulais vous entendre sur des propos de Zak Brown et Andrea Stella, qui ont du coup pris la parole depuis le Grand Prix du Mexique. Bien évidemment, il y a ce gros fait d'armes au championnat pilote, c'est que Lando Norris a repris les rênes. Bien évidemment, il y a tous les bruits qui traînent dans le paddock de ça arrange bien McLaren, c'était le choix de McLaren, Lando Norris, ils ont tout fait un petit peu quand même pour pas savonner la planche, mais faire en sorte que ce soit un peu compliqué avec Oscar Piastri. Il y a eu des déclats quand même de dingue de Zak Brown et Andrea Stella, je vous les lis, mais on est revenu bien sûr sur un potentiel échec de McLaren dans cette quête du titre pilote, avec le spectre de 2007 où McLaren avait, c'était totalement loupé à la fin de la saison. Zak Brown, qui est quand même le PDG de McLaren, il a dit « Je préfère me dire on a fait du mieux possible avec nos pilotes à égalité ». Et ouais, alors attendez, parce que la traduction là que bon. il a dit je ne me vois pas dire à mes pilotes je sais que tu rêves de gagner le championnat du monde, mais on a jeté la pièce en l'air et ce sera pas pour toi cette année. Et il a dit en gros, si jamais 2007 se reproduit, c'est une issue que je préférerais à n'importe laquelle des autres issues consistant à favoriser l'un de nos pilotes. Les mots sont ultra forts, ils sont prêts à tout perdre, Louis, pour ne pas prioriser Piastri à Norris ou Norris à Piastri. Bien évidemment, moi j'ai quand même la vraie sensation que c'est de la communication, hein, parce que dans les faits, c'est pas vraiment ce qui se passe, mais les mots sont ultra forts.
Ouais, elle est surprenante cette déclaration. Moi, elle trotte dans ma tête et je me dis bon, soit c'est un peu débile comme communication, parce que tu montres finalement que t'es pas, comme dirait Moscato, un capitaine d'industrie, quoi. C'est-à-dire que
tu montres tes faiblesses, en fait.
Bah ouais, c'est ça. C'est que, attends, t'es pas leur père, en fait. T'es le patron de McLaren. Donc, va peut-être falloir prendre une décision. Mais j'ai du mal à y croire, c'est le romantisme pur. C'est vive le sport sur Antenne 2, on laisse faire les gars, allez-y.
J'y crois pas une seconde.
On kiffe. Mais moi, ça, j'y crois pas une seconde, il y a trop d'enjeux. Donc, c'est pour ça que je me dis, cette déclaration est surprenante, elle est bizarre, elle est peut-être juste à destination de ses pilotes pour leur faire croire que oui. Mais je vous entends dire que tout est pour Norris du côté de McLaren. Moi, c'est quelque chose sur lequel je suis un peu plus mesuré. Hein. Moi,
j'ai dit que c'était ce qui, voilà,
les rumeurs du paddock,
on n'a aucune info.
Ouais, Jean-Luc était assez ferme là-dessus en disant que c'était un peu même scandaleux sur les derniers Grands Prix, qu'on avait l'impression que tout était fait pour Norris. Alors, je suis peut-être naïf, mais je n'ai pas non plus la sensation que ce fût si clair, en fait, et que c'est plus le rythme de course qui a fait que, ils ont choisi celui qui était devant sur le moment, quoi. Mais cette déclaration de Zak Brown montre en fait toujours ce problème qu'il y a chez McLaren. Mais j'ai du mal à savoir si c'est bon ou mauvais de réagir comme ça, puisque... je te dis, il y a aussi cette part où tu te dis peut-être que les deux pilotes, ils auront leur chance jusqu'au bout et ça serait beau, mais c'est vrai qu'on reste dubitatif là-dessus.
J'ai quand même tendance à penser, les gars, que quand tu prends la parole, c'est pas pour forcément éteindre un incendie, mais en tout cas, c'est qu'il y a des choses qui se disent et que t'as envie un peu de remettre l'église au centre du village, tu vois, Séraphin. Donc je me dis que si Zak Brown le fait, si Stella le fait, les deux ont parlé, c'est qu'il y a des choses qui couvent, que ça leur déplaît. Alors, est-ce que c'est en interne du côté de Piastri? Est-ce que c'est le clan de Piastri aussi? Est-ce que c'est une déclaration un peu pour éteindre l'incendie en interne? Ça, j'en sais rien, tu vois. Ou c'est peut-être juste tout simplement pour une nouvelle fois partager leur politique, parce que Louis a raison, ils font ça depuis le départ et il n'y a aucun favoritisme. C'est vrai que ça, après, nous, on fait nos interprétations de très très loin, mais je sais pas, je me demande pourquoi il prend la parole à ce moment-là en disant ça, quoi.
Ouais, bah c'est vrai, mais justement, faut pas oublier que pourquoi il dit cette déclaration à ce moment-là? Parce qu'on vient de basculer à un point où le leader de l'écurie, donc en termes de points pour le titre, c'est maintenant Lando Norris. Alors que jusque le début de saison, jusque avril, c'était Oscar Piastri. On a pu très bien attendre d'avoir une situation, il y a quelques Grands Prix, où au vu des Papara Rules et de ce qui se passait pour le grand public et de l'image qu'ils en prenaient, de donner une décision beaucoup plus tôt, finalement en disant bah voilà, en fait, voilà ce qu'on a décidé, on sait qu'on a fait ça à Monza, il y a eu tel événement à Singapour, voilà, ça s'est accumulé. Eh bien, on aurait pu très bien décider de ça avant. Et là, c'est parce que Lando Norris est passé devant Oscar Piastri, donc on juge que les pilotes, ils sont maintenant kiff-kiff en termes de points. Que voilà, on donne cette décision, cette fausse entre guillemets raison au public, et aussi pour taire un peu les rumeurs que certains pouvaient avoir, et Louis l'a dit, de penser que Norris est favorisé, ou en tout cas qu'on lui met en place des choses. Donc ça intervient aussi dans un moment où voilà, nos deux pilotes, ils sont à un point d'écart pour être champion du monde. Il reste 4 grands prix. Et il ne faut pas oublier quand même que c'est là où c'est un peu, je suis un peu aussi dubitatif sur cette déclaration, c'est que McLaren, l'année prochaine, c'est plus la même écurie. On sait que tout va changer et c'est impossible de dire que si McLaren sera toujours aussi compétitif. Donc en fait, celle-ci, cette année, s'il y a une année pour aller chercher un titre de pilote, eh bien c'est cette année, il faut y aller, il faut tout donner. Et là, on se dit, bah voilà, surtout ok, on laisse les deux. Ouais. Et puis, s'il se passe. J'ai même vu Stella qui dit, ah bah si Verstappen il gagne, ah bah j'irai lui serrer la main et lui dire bravo. C'est quand même, on est en Formule 1, on est quand même le top de la compétition. On est là pour. Voilà, il y a 10 écuries, tout le monde bataille pour essayer de gagner. Et en fait, on est en train de reposer
le monde des bisounours, on n'y croit pas un seul instant. On n'y croit pas un seul instant, franchement. Après, ils sont bons en communication avec cette image un petit peu de gentleman driver là, qui laisse paraître, mais les enjeux sont tellement colossaux. Et puis, après, il y a des questions qui sont posées plus tard, mais si Norris gagne le titre et qu'il y a des tensions en interne, on verra comment réagit le clan Piastri aussi, Louis, hein, parce qu'on imagine que là, Piastri, il est encore en quête du championnat, donc c'est peut-être pour ça qu'il dit rien, mais si ça finit par péter totalement, Piastri peut mettre le feu à McLaren aussi, donc dans tous les cas, ça va bouger sur cette fin de saison, il va forcément se passer des choses à McLaren. Bah,
on sait qu'Oscar Piastri, il sait faire mettre le feu dans une écurie, il l'a fait chez Alpine lors de son départ à McLaren, donc c'est complètement possible et on a hâte, ça va être marrant, non? ça va mettre un beau bazar quand même, parce que là il y a encore 3 pilotes qui peuvent gagner et il y a tellement de choses qui peuvent se passer que ça va être génial, mais c'est clair que par rapport à la saison, voilà, Piastri, s'il l'a pas, il va être dégoûté toute sa vie, en fait. Norris, il pourra s'en prendre qu'à lui-même sur son début de saison, mais quand t'as été en tête aussi longtemps que Piastri, c'est lui qui a le plus de pression, même si aujourd'hui il est plus premier comme Norris, c'est toujours lui, parce que il sait qu'il se laissera bouffer tout seul. Mm-hmm. Voilà, c'était dire à dire, je l'ai dit. mais c'est ça. C'est-à-dire que Norris, tu me diras, lui aussi avec son début de saison, mais lui, il n'a pas été en tête autant de Grands Prix que Piastri. Donc vraiment, vraiment pour lui, il est à un moment charnière, quoi, tu vois, parce que Hamilton, ça lui était arrivé sa première saison de se rater. Il y avait eu ce truc en Chine où il se met dans les graviers tout seul. Et derrière, la saison suivante, il a la chance de s'en sortir. Et encore, on le rappelle, on l'a rappelé en début de podcast de ce fameux Grand Prix du Brésil où en fait, il se passe, pas un miracle, mais des trucs complètement invraisemblables qui lui permettent de gagner. Mais comme tu l'as dit, Séraphin, Piastri, l'année prochaine, on ne sait pas, il peut être dernière voiture. J'extrapole un peu, mais il va y avoir tellement une refonte que c'est maintenant qu'il faut y aller, quoi. Et que ça soit McLaren ou Piastri, ils peuvent pas se rater. L'année dernière, champion du monde constructeur, pas champion du monde pilote. Ils peuvent pas être deux fois champion du monde constructeur et pas être champion du monde pilote. C'est pas possible.
Et là, celui qui est très bon, bien évidemment, qu'on n'a pas entendu depuis longtemps, depuis l'éviction de Christian Horner, c'est Jos Verstappen, qui a pris la parole dans les médias néerlandais. Et bien évidemment, il essaye de mettre le bazar. Hein, vous imaginez bien, il dit « Je trouve ça assez étrange ce qui se passe chez McLaren quand même. Piastri ne peut pas avoir soudainement oublié comment piloter, pas vrai? Si j'étais lui avec son manager, je taperais au moins du poing sur la table en interne. Parce qu'actuellement, tout le monde se demande s'il peut supporter la pression et c'est pas bon pour sa réputation. » Il est bon.
Très très bon.
Il est bon. Et je pense que là, Verstappen doit un peu se délecter. En fait, je me suis demandé, Séraphin, si ce n'était pas le meilleur scénario pour Max Verstappen. Que Norris reprenne les devants, qu'il y ait vraiment cette tension entre les deux pilotes McLaren. Je me demande si ce n'est pas tout bénef pour lui, en fait, dans le scénario de la fin de saison.
Si, bien sûr. Et on le disait quelques courses. Il était tellement loin, Verstappen, que même lui n'y croyait pas. Et en quelques courses, il a retrouvé la performance avec ses monoplaces qui s'est améliorée. On a eu le nouveau fond plat à Monza. Et d'un coup, on croit maintenant des chances de gagner un titre. Donc bien sûr que c'était inespéré pour lui. Et en quelques courses, il est en train de les rattraper. Il n'est plus qu'à 36 points de Lando Norris et 35 points d'Oscar Piastri. Il reste 4 courses. On se rappelle qu'il était à plus de 100 points d'écart après Zandvoort. C'est... Pour lui, la porte est ouverte. C'est ça. Les deux pilotes sont en train de s'auto, on va dire, ils se bloquer. Même, je dirais que celui qui est plus, on va dire, en face par rapport à Verstappen maintenant, c'est Lando Norris. Parce que Oscar Piastri, ça fait 5 courses où il n'a pas de podium. Ça fait 5 courses sans pole position. On le voit avec un gros manque de rythme. Ce week-end, s'il veut.
Toi, tu penses qu'il est hors course, Piastri?
Pas encore, mais au vu, j'ai regardé en détail les points. Pour moi, si là, Piastri, il se réveille pas et qu'il fait pas un gros résultat, bah là, vraiment, la spirale négative, elle est irrémédiable et il enchaîne trop d'erreurs. Il est trop loin. Donc là, vraiment, il faut qu'il se réveille ce week-end s'il veut encore. Et il a qu'un point d'écart, donc attention, il est encore très très près de Norris. Si Norris finit hors ce week-end, on aura Piastri en tête et ça sera différent, mais... Au vu de la dynamique et surtout au vu de la saison, il l'a dit, Louis, c'est sa troisième saison, c'est encore un jeune pilote. On l'a comparé presque à un moment donné à Max Verstappen sur certaines courses parce qu'il avait cette froideur, ce sanglant, cette efficacité. Il enchaînait le premier tiers, il a dominé, donc il est capable. Et là, depuis 5-6 courses, c'est vraiment... Ça n'a pas chuté en baisse de rythme, Verstappen qui remonte. C'est vraiment une chute brutale de rythme, de confiance. Et là, grand prix après grand prix, on attend, j'en avais parlé au week-end précédent, cette nouvelle course finalement, référence pour Oscar Piastri, pour retrouver cette confiance qu'il a au fond de lui. Et c'est un très bon pilote, mais que là, actuellement, psychologiquement, il est en train de perdre. Donc Verstappen, bien sûr qu'il sort les... Il sort de là et il se rapproche.
C'est un peu l'image, on peut reprendre une image de la course en F1 d'ailleurs. C'est quand tu as un pilote qui revient de derrière et tu en as deux, ils roulent ensemble. Ils se battent, donc ils perdent du temps. Et puis à la fin, ils se font bouffer. Ils se font bouffer parce que l'autre revient, parce que l'autre il est sur ses trajectoires, il ne perd pas de temps, il a de l'air clean. Donc on est un peu sur cette image-là, mais au niveau du championnat, c'est ça, c'est la bataille, les deux devant, c'est clairement une aubaine pour Verstappen. Et sans ça, d'ailleurs, ça serait déjà finito, les amis, on parlerait déjà de 2026.
C'est clair. 116 points encore à distribuer hein, en 4 grands prix.
C'est beaucoup.
Et deux sprints.
Ouais,
hein,
c'est ce que j'allais dire. Et deux sprints, dont celle de ce week-end. C'est pour ça qu'on se dit qu'Interlagos, ça peut vraiment être un week-end charnière. Parce que si tu fais une erreur en sprint aussi, ça peut changer énormément de choses. Les gars, on le disait après le débrief du Grand Prix du Mexique, un arbitre qui est la Scuderia Ferrari. Il y a Charles Leclerc là, qui vient de sortir de la conférence de presse à Interlagos et qui a déclaré qu'il chassait une victoire. Séraphin, il y a aussi eu des déclats au sein de Ferrari Bah, qui font réagir forcément parce que on avoue du côté de la Scuderia qu'on n'est pas au niveau, qu'on a manqué de quelque chose sur cette saison. Et c'est peut-être la première fois d'ailleurs qu'il l'assume un peu publiquement.
Et oui, et moi ça m'a interrogé aussi. Je vais citer le directeur général de Ferrari, hein, Benedetto Vigna, qui a déclaré il y a quelques jours: il y a d'autres équipes où tout semble fonctionner plus harmonieusement que chez nous. Nous devons assurer que tous les ingrédients nécessaires pour gagner fonctionnent ensemble. Le podium Mexique nous a fait du bien, mais la saison reste encore en dessous de nos espérances. Et quelqu'un d'aussi important quand même, qui avoue à demi-mot que voilà, on n'arrive pas encore à tout mettre bout à bout, surtout avec une saison où on sait qu'on avait un des plus gros line-up. Eh bien,
il dit ce qu'on voit. Hein,
ouais, ce que j'allais dire, c'est que s'il nous avait dit ouais, c'est incroyable.
Ouais, il nous avait dit grand soleil sur la Scuderia, tout est nickel, tu vois, on l'aurait assassiné.
Ouais, mais on n'aime pas trop parler comme ça à Scuderia. On n'a pas avoué ses faiblesses. Ouais. Voyez, nous, évidemment, on a un œil là-dessus. On voit comment ça se passe. On sait les rumeurs qu'il y avait en début de saison, Frédéric Vasseur. On sait la situation compliquée avec Lewis Hamilton. Ferrari qui n'a gagné aucune course cette année. Donc on le dit week-end après Grand Prix, week-end après week-end. Mais là, que ça sorte vraiment, effectivement, ça interroge. Et j'ai vu, je prends des pincettes, mais j'ai vu passer aussi quelques déclarations, potentiellement de certains ingénieurs de chez Renault, qui auraient été, notamment avec le moteur qui s'arrêtait à Brive-Châtillon, qui auraient été, donc du coup, effectivement, ils ont leur expérience. Donc, il serait arrivé chez Ferrari et qui aurait vu certaines choses sur le moteur, le jugeant finalement pas forcément à la hauteur par rapport à ce qu'eux, ils avaient pu développer actuellement chez Renault. On rappelle que le moteur avait été quand même bien développé. Ça prend avec des pincettes, attention. Mais ouais, non, c'est pas rassurant de donner ce genre de déclaration. Ouais, c'est pour moi, il faut vraiment, hop là, laisser la... On est déjà à 20 Grands Prix,
hop là.
Donc on laisse sous le tapis le reste de la saison. Charles, il a fait un bon week-end. En fait, là, pour eux, il faut se concentrer sur la deuxième place. C'est important de le rappeler. Et d'ailleurs, c'est aussi, je trouve, intéressant, mais la deuxième place pour le classement constructeur, il n'y a que 10
c'est
points
vrai,
d'écart
raison.
Entre Ferrari, Mercedes et Red Bull. Et n'empêche que bah, ça joue, hein, entre deuxième et quatrième, c'est une grande différence, à la fois évidemment financière, mais aussi pour l'image de l'écurie. Donc si Ferrari se retrouve dans 4 courses quatrième, et ben là, ça fera mal.
Le bilan sera pas le même, c'est clair. Mmh. Ouais, t'as raison. C'est vrai que j'ai pas rappelé les classements, hein. Mais si vous êtes des habitués du paddock RMC, vous les avez à chaque débrief de Grand Prix. Je vais juste redonner les chiffres. Ferrari 356, Mercedes 355 points, Red Bull 346. Voilà. Donc c'est ultra serré entre ces trois écuries. Et puis les gars, je voulais vous interroger sur quelque chose. C'est que bah, on ne sait toujours pas si Isaac Hadjar sera un pilote Red Bull l'an prochain, Louis. Ouais. On nous a annoncé les États-Unis, je crois. Après, on a dit le Mexique pour l'annonce du futur coéquipier de Max Verstappen. Finalement, maintenant, on nous dit que ce sera la fin de saison. Il y a Isaac Hadjar, là, qui était en conférence de presse au Brésil, qui a dit que lui, de toute manière, il n'avait jamais signé un contrat dans sa jeune carrière avant une fin de saison. Donc que ça, enfin voilà, que c'était prévu et que ça ne le perturbe absolument pas. Malgré tout, est-ce que ça veut dire, Louis, selon toi, attention là encore une fois, on est subjectif, ce ne sont pas des infos, c'est plus nos impressions qu'on donne. Est-ce que ça veut dire que y a une vraie réflexion chez Red Bull ou c'est plus un effet de com, tout simplement, voilà, un timing d'annonce quoi.
Bah, vous connaissez l'adage populaire quand c'est long, c'est bon. Et ben là, c'est pas bon du tout. Là, c'est pas bon du tout quand c'est long en F1, je le dis.
Il m'a cloué le bec. J'ai pas eu de répartie.
Moi, j'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. Ça peut être plein de raisons, comme tu l'as dit. Ça peut être de la, un moment de com, une dernière réflexion. Quelqu'un qui dit non, mais on n'a aucun intérêt à le dire maintenant, attendons. Ça peut être simplement ça, mais tant que c'est pas fait, du coup, ça laisse déjà le champ libre aux rumeurs, comme on est en train de l'alimenter. Mais ça laisse aussi le champ libre aux potentiels concurrents pour ce baquet d'Isaac de faire des bonnes performances, d'être là au bon moment. Et en dernier lieu, ça permet à Isaac, lui, à l'inverse, d'avoir une pression de pas faire l'erreur qui pourrait fragiliser encore un peu plus cette annonce et peut-être la remettre en cause. J'aime pas non plus entendre que Helmut Marko a l'air démuni dans la situation quand on connaît son importance.
Ouais, en tout cas, on dit qu'il a un peu perdu de l'influence depuis le départ de Horner, que maintenant le board de Red Bull consulte énormément Laurent Mekies, enfin voilà, qu'il y a d'autres décisionnaires et voilà, c'est un peu ça le truc.
Après, je pense que Laurent Mekies est tout sauf un ennemi pour la carrière d'Isaac Hadjar et que bon. Voilà, normalement ça devrait se faire. Maintenant, moi je te dis, l'attente, j'aime pas du tout ça. En F1, on sait, on l'a vu aussi en foot des dizaines de fois, un transfert annoncé de partout et puis c'était une rumeur, il y avait une visite médicale, finalement il y a un autre club qui s'est mis dessus. Là en F1, il peut s'être passé des choses qu'on n'a même pas à notre connaissance, personne et qui ont fait ralentir ce truc, voire le mettre en pause. J'espère pas. J'espère que peut-être à la fin de ce week-end, on se dira, bah, tu vois, on était bien bête parce que finalement, ils l'ont annoncé
oui.
Et c'est super.
Non, mais peut-être qu'on s'enflamme pour rien.
Ouais, j'espère vraiment.
Tout est matière à interprétation.
Ouais, mais tu vois, je m'inquiétais pas encore trop, mais là, je trouve que j'ai entendu mes caisses la dernière fois à Mexico éluder la question un peu. Ouais, attention.
Mais c'est surtout que ça coïncide, ça a fin avec des perfs d'Isaac Hadjar qui sont pas en nette régression, hein. Et puis il a fait tellement de belles choses que il est peut-être juste rentré dans le rang. En tout cas, il roule peut-être juste à sa place actuellement. Mais c'est moins flamboyant. Donc forcément, le fait que tu aies cette annonce qui soit un peu retardée, le fait qu'Isaac Hadjar rentre un petit peu dans le rang, tu te demandes si ça a un lien. Et on est obligé de se poser cette question.
Oui, et je pense aussi que le second baquet Red Bull est peut-être l'un des plus... c'est celui où on se pose le plus de questions, parce que quand on sait qu'à côté c'est Max Verstappen, on en parle souvent. Donc ça, je pense que ça alimente aussi, de manière médiatique, plus de pression sur l'écurie. Parce que, on sait que votre deuxième baquet, c'est à côté de Max Verstappen. Voilà, je pense que ça alimente plus de pression pour eux, du point de vue du grand public. Puis on se rappelle aussi sur une saison qui est très très longue.
C'est le baquet maudit.
Ah bah voilà.
Tout le monde sait que celui qui y va, il a une pression de dingue. Donc
on a déjà changé de pilote en début de saison. On se rappelle au bout de deux grands prix. Donc on sait que ça tourne beaucoup. Après, les saisons aussi sont tellement longues parce que là on parle quand même du week-end de la 21e course sur 24. Hein, on rappelle, c'est quand même beaucoup beaucoup de courses. Donc c'est peut-être un effet de les saisons sont tellement grandes que maintenant les annonces font peut-être un peu plus tard. Et pour eux aussi, c'est que Red Bull est très corrélé, ce qui est logique, à Racing Bull. Donc en fait, on va annoncer plusieurs baquets, on doit gérer trois baquets finalement, entre les jeunes pilotes et tout ça. Donc,
tarde, ce n'est pas son cas, c'est le cas d'un autre baquet.
Voilà, c'est ça, parce que en fait, pour moi, c'est aussi cette
question. La situation de Tsunoda, par exemple, qu'est-ce que tu fais de Tsunoda ?
Il y a la question de Tsunoda, on sait, évidemment, il y a Lawson, il y a Lindblad aussi en F2, qui a ça sur la licence, et puis Lawson. En fait, on sait que c'est un peu ces trois pilotes qui peuvent se jouer. J'avais entendu dire que Tsunoda pourrait peut-être partir en IndyCar, j'ai vu quelques articles là-dessus récemment, il n'y a rien fait, mais ça pourrait être. Peut-être que s'il y a une annonce qui se fait, ça va ouvrir. Et après, c'est sûr que oui, plus la saison est longue, moins c'est bon sur Isaac. Et c'est vrai que quand on regarde au niveau son dernier point, effectivement, c'était à 4 courses à Bakou, où il n'est marqué qu'un seul point. Donc c'est sûr qu'au niveau comptable, il est toujours 10e quand même. Hein, c'est quand même à noter.
Toujours 10e.
Mais oui, ça fait 4 courses là qu'il ne marque pas de points. En qualification, je trouve quand même toujours assez bon. Et puis on en a parlé aussi beaucoup, c'est que Lawson a aussi un peu le niveau de jeu. Donc c'est sûr qu'on compare aussi face à un coéquipier qui lui trouve plus de performance. Et voilà, il y a des petites erreurs. On se souvient évidemment du Mexique, de Austin, il y a 3 semaines déjà, de son crash en qualification. Oui, bah effectivement, pour l'image, c'est jamais bon. Donc moi, je suis très confiant pour Isaac. Je vois pas pourquoi. Pour moi, la décision, ça fait quand même plusieurs grands prix que pour moi, elle a été pour eux. Mais c'est plus une question de
timing de com,
avec les autres aussi, les deux autres baquets, de prendre le temps. Et l'effet aussi, Laurent Mekies, vous l'avez dit, mais c'est important. Je pense que depuis que Laurent Mekies est arrivé, ça a changé beaucoup. On sait que la dynamique, elle est plutôt bonne en ce moment. On préfère.
Non, et puis après, t'as aussi un truc, c'est que. Bah mine de rien, ils sont à la lutte pour un championnat du monde. Ils ont peut-être pas envie de se polluer aussi avec ça.
Ouais,
hein.
Je pense qu'ils veulent peut-être garder aussi Tsunoda à fond, bah,
ouais,
justement dans cette course-là.
Tsunoda,
parce qu'il peut être utile, on ne sait
doit
jamais.
Bloquer, s'il doit bloquer une McLaren à un moment, s'il doit retarder une McLaren pour aller gratter de précieux points, tu vois, ça peut jouer très fortement. Si Tsunoda, il sait qu'il n'est pas en Formule 1 la saison prochaine, c'est pas la.
Il marque 16 points en 4 courses, donc c'est aussi un peu mieux pour lui.
Ouais, il revient. C'est vrai, ça revient bien. Bah les gars, merci beaucoup. Tiens, dernière petite info, Carlos Sainz n'était pas sur le circuit aujourd'hui à Sao Paulo. Il était un peu malade. Voilà, donc normalement, pas de souci pour la
journée. Trop de caipirinha hier soir.
À mon avis, ça a chargé sur la caipi et sur les churrascara.
Bon, la soirée a dû être bonne au moins.
Alors bah oui, ils doivent se régaler au Brésil, franchement. Les gars, merci beaucoup.
C'est vrai que quand tu penses qu'il y avait un championnat dans lequel tu avais le Brésil et Manicourt dans la Nièvre.
Mais attention, tu sais que alors, en termes de soirée, pas la même ambiance, mais je pense qu'à Manicourt, tu peux aller dans des restos où tu te fais des bouffes d'anthologie.
Oui.
Ça
oui,
dépend
oui.
ce que tu recherches.
Ouais, ouais,
ça
c'est
dépend
sûr.
Ce que tu recherches.
Ouais.
C'est notre France à nous, Manicourt.
Ben, bien sûr.
Bon les gars, on se retrouve lundi. Débrief du paddock
moi,
avec toute
vacances.
L'équipe. Ah, il est en vacances celui-là.
Ouais,
il
enfin.
Prend ses vacances à la fin de la saison. Mais c'est vrai que tu charbonnes toi.
Un
parce
peu.
Que t'as pas coupé cet été en plus.
Pas trop
donc,
non.
Pas trop. Tu mets.
Je suis là depuis le 11 août et j'ai le quiz le soir et tout. Ça fait des belles journées. Voilà. Si vous une petite séance de psy à la fin de ce paddock.
Ouais.
Pour
et puis toi, tu vois par rapport à Piastri, t'es très régulier. T'as pas de voilà. Ta dynamique est très bonne depuis le début de saison.
Faut pas s'écrouler. Faut aller chercher le titre.
C'est ça. Par contre, faut pas se louper. En effet. Réponse lundi, les gars. Dans le débrief du Grand Prix du Brésil, vous restez connectés, vous activez les notifications du paddock RMC, vous vous abonnez à la chaîne et on se retrouve lundi avec toute l'équipe. Bye bye.
Ciao.